Alors moi, je suis censée réagir sur toute l'après-midi. Donc je vais essayer peut-être déjà de remercier tout le monde pour ses apports sur la dimension démocratique finalement et politique des caisses. Et de finalement de cette question, quels intérêts servent les caisses alimentaires communes? J'ai l'impression que c'est un peu ce qui vient nous questionner dans toutes ces interventions. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être redonner un peu des perspectives à la fois macro-politiques et micro-politiques à l'existence de ces expérimentations et de ces caisses alimentaires. Macro-politiques au sens où finalement elles s'appuient sur une définition qui a été donnée bien avant celle de la SSA, qui est celle de la démocratie alimentaire. Et cette démocratie alimentaire, peut-être rappeler qu'elle s'est... en tout cas, elle a été définie, années 90, par Tim Lang, etc., comme une lutte titanesque, etc., entre les forces du contrôle et le pouvoir citoyen. Donc la démocratie alimentaire, elle s'inscrit dès le départ dans cette idée de s'opposer à un certain système alimentaire agro-industriel, financiarisé, mondialisé, et elle vise finalement cette réappropriation citoyenne du système alimentaire avec cet enjeu de reconnexion avec les conditions de production, avec l'accès de tous et toutes à une alimentation adéquate, etc. Et donc elle renvoie à une multitude de pratiques dont les caisses alimentaires communes sont peut-être une sorte de suite, mais finalement qui les dépassent aussi puisque c'est tout ce qu'on a pu connaître en termes d'alternatives alimentaires qui continue d'ailleurs d'être portée par de nombreux citoyens et citoyennes. Et en fait, cette démocratie alimentaire, elle met l'accent donc sur ces enjeux d'accès, sur ces enjeux de choix collectif, de choix politique, dans une perspective de s'opposer à autre chose. Et donc peut-être c'est important de se le redire dans la manière dont on observe aujourd'hui aussi les caisses alimentaires communes et le cadre finalement politique dans lequel elles ont émergé et dans lequel elles évoluent aujourd'hui, qui est donc a priori ce cadre de lutte contre un certain système. Ensuite, le projet de sécurité sociale de l'alimentation, il arrive à un certain moment comme une idée politique et une forme d'instrument politique qui pourrait permettre de réaliser cette démocratie alimentaire à travers l'enjeu d'universalité, de cotisation, de conventionnement démocratique. Et là encore, ça reprend finalement comment est définie la démocratie alimentaire, enjeu d'accès, reprise de pouvoir, apprentissage et éducation populaire et choix collectif. Donc ça, c'est un peu, une échelle un peu macro-politique dans laquelle évoluent finalement les caisses alimentaires communes et qu'il est peut-être bon de rappeler quand on s'interroge sur la dimension politique et démocratique des caisses. Ensuite, on a une échelle qui est peut-être l'attention sur laquelle on se porte aujourd'hui cet après-midi, une échelle plutôt micro-politique, d'en gros, concrètement, comment on fait démocratie? Et à la limite, ça pourrait s'appliquer aussi à d'autres champs que celui de l'alimentation. Et finalement, on pointe ici les difficultés à faire vivre finalement cette dynamique démocratique dans un contexte global absolument défavorable à cet exercice démocratique. Et donc, on vient questionner comment on peut concrètement délibérer, arbitrer entre des intérêts contradictoires. Parce qu'effectivement, les intérêts sont contradictoires. Il est important peut-être de se rappeler ça aussi quand on parle de démocratie. Et là, qu'est-ce que vous venez pointer? Vous venez pointer, je pense, différents aspects de cette difficulté à faire démocratie. On a parlé de risques hégémoniques, par exemple, autour de certains codes de l'alimentation. On a parlé de tensions entre démocratie et technocratie, on pourrait dire bureaucratie également. Donc ça vient pointer à la fois, je pense, les pratiques concrètes d'animation, d'intermédiation de cette démocratie. Et je pense que ça vient mettre aussi en tension le secteur associatif dans son ensemble, entre la gestion de projet et le temps nécessaire à la démocratie citoyenne, participative, et une gestion de projet qui aujourd'hui est clairement encadrée par des cadres institutionnels de financement, de temporalité qui pèsent énormément sur les associations et qui viennent mettre en fragilité les projets politiques associatifs et qui vient aussi même peut-être réinterroger ce modèle associatif avec, vous l'avez dit aussi, le rôle politique des salariés. Et ça, c'est des choses qu'on travaille aussi, nous, dans notre expérimentation à Montpellier, c'est-à-dire comment on vient aussi repenser certaines visions associatives qui se sont imposées ces dernières années avec tout cet encadrement institutionnel. Ça vient aussi re-questionner finalement qu'est-ce qui est démocratique, qu'est-ce qui est démocratique, qu'est-ce qui ne le serait pas, et donc toute l'importance de l'inclusion finalement qui est autour de la table très concrètement pour délibérer, pour discuter. Est-ce qu'on se donne les moyens d'inclure de manière large dans ces espaces qui se veulent démocratiques. Et donc ça pointe clairement la question de la composition hein, des caisses, des comités citoyens, de ceux qui travaillent dans ces caisses. Le temps qui est donné à la délibération, le temps qui est donné à cette appropriation d'enjeux, à cette éducation populaire, à ces apprentissages en commun, ça a été rappelé, hein, basé sur le croisement d'expériences, le croisement de savoirs, sur la convocation des émotions, des affects, comme tu disais Juliette, cette dimension un peu organique à un moment donné de ces groupes d'habitants qui se retrouvent régulièrement pour discuter, délibérer, choisir, mais aussi pour vivre une expérience en fait collective, humaine, et ça c'est, je pense, une dimension assez importante de cette vitalité démocratique potentielle. Et puis j'aurais aussi envie de mettre l'accent sur la question des choix, et surtout de la mise en application des choix. On a beaucoup de travaux sociologiques sur une critique de la démocratie participative, et notamment sur le fait que finalement, on invite des personnes à participer, mais que finalement, les choix qui vont être faits dans ces espaces vont être rarement mis en application derrière. Et je pense qu'on a ces opportunités avec les caisses de mettre en œuvre peut-être cette idée d'une démocratie plus directe avec de la délibération, des choix, la mise en application de ces choix, notamment à travers le conventionnement, qui sont assez importants. J'aurais envie de pointer la nécessaire alliance entre l'action et la recherche, justement dans cette perspective à la fois dynamique, à la fois critique. Et je pense que tout ce que vous avez dit, ça renforce aussi cet enjeu de ces alliances-là, donc avec le mot que je dis à peu près tous les jours en ce moment pour faire vivre un certain pragmatisme critique, c'est-à-dire cette capacité à continuer à faire vivre ces espaces de création, de résistance, tout en ayant la réflexivité nécessaire pour observer les limites finalement de nos dynamiques démocratiques, parce que effectivement il faut qu'on s'intéresse aussi au vécu des participants et des participantes, aux trajectoires des habitants et des habitantes dans ces espaces-là. Je pense qu'on aurait besoin aussi de travaux peut-être là-dessus qui soient encore plus forts, encore plus développés, et partir aussi de cette idée que la démocratie reste une perspective, un horizon, et qu'en fait on assiste finalement à des fluctuations dans ces dynamiques démocratiques au sein des caisses, avec des temps différents qui sont plus ou moins bureaucratiques, plus ou moins démocratiques, et donc un peu toute cette alternance de moments. Mais effectivement, veiller toujours à lutter quelque part pour un contrôle populaire, pour le renouvellement des places, des rôles, pour des transferts de pouvoir. Voilà, on a des enjeux et certainement aussi un renoncement à certains privilèges pour certaines catégories de population. Donc voilà, des enjeux politiques qui restent assez forts. Merci.
Et peut-être pour rebondir en formulant une question, et après on va vous donner la parole, c'est de savoir, en fait on parle d'expérimentation, on a conscience que finalement les plus vieilles expérimentations elles ont 3 ans, c'est hyper récent, on a des niveaux d'exigence qui sont très très importants sur la capacité à inclure, sur la capacité à pouvoir fédérer autour d'un projet commun une diversité de populations. Et la question que je me posais, ça rebondissait avec la présentation que vous avez fait, Pascal et puis Léo, sur la question d'utopie et d'utopie concrète au sein des caisses et de la possibilité de la mettre au pluriel au sein des caisses. Je me posais la question dans le cadre du... On le sent, c'est ce que tu disais Alban avec Lyon, c'est ce que tu disais aussi... Juliette et Birgit à Paris, la capacité que le cadre peut mettre sous pression, on va dire, la dynamique pour répondre à des impératifs de rendu, d'avancer, de démontrer que les choses se font, ce cadre-là qui est très, qui peut être très pressurisant, on va dire. De quelle manière, en fait, ce cadre-là, il pourrait laisser la capacité à faire vivre au sein des caisses différents niveaux, différents registres d'utopie qui pourraient exister à différentes vitesses. Pourquoi forcément tout le monde devrait être à la même vitesse au sein des caisses? C'est-à-dire qu'on voit que le registre qui est valorisé, c'est le registre de la durabilité. Et qu'en gros, si on dévie un petit peu de ce registre-là, c'est un peu ce qui me semble émerger avec la question du halal, quand on en a parlé, c'est la question en Gironde, c'est la question à Lyon, c'est potentiellement l'entrée qui montre une autre manière d'appréhender le registre qui va être valorisé au sein des caisses et qui, on le voit, pose problème. Il y a une sorte de tension qui se crée là. Pourquoi ? Parce que il y a potentiellement l'idée d'avoir un seul et même registre sur lequel tout le monde se réfère. Est-ce que la caisse et la perspective ne seraient pas de faire vivre au sein de ces caisses-là différents registres qui iraient à différentes vitesses, c'est-à-dire on partirait de là où on est, tout en essayant d'avoir un commun. Le commun, c'est l'accès solidaire à une alimentation, mais au sein de ce... C'est comme si je repense à ces... Au choix qu'ont fait souvent les supermarchés coopératifs d'avoir en leur sein différentes gammes de produits qui permet de faire collectif au sein du même lieu, c'est-à-dire d'aller dans un espace où on va remettre en cause un certain nombre de choses, et notamment sur la capacité de la propriété du lieu, la propriété de la propriété capitalistique, etc. Mais on va laisser une diversité au sein de ce cadre-là. Et est-ce que nos caisses, parce qu'elles veulent aller trop vite, trop loin, trop rapidement, elles ne se donnent pas les moyens de faire vivre une diversité de registres au sein des caisses qui sont mis en travail, qui sont dans une progressivité pour aller vers du commun, mais qui en même temps ont la capacité de pouvoir non pas exclure. Puisque ce qu'on voit dans les différentes présentations, c'est qu'en fait, à chaque fois, on se retrouve avec le même type de gens, c'est-à-dire des gens qui vont être déjà engagés, qui vont déjà avoir des questions, de se poser en question, etc. Donc on touche une partie d'un public qui va se retrouver là-dedans et qu'on va exclure de fait si on n'est pas capable de pouvoir ouvrir les registres qui sont intégrés dans la perspective des caisses. Ouais. Je ne sais pas si c'est une question, mais en tout cas, si ça, je mets ça au pot commun. Question ?
Réaction ?
Une main déjà, hyper levée. Est-ce que... ouais, ça va, ouais. Il a déjà posé une question, mais s'il n'y a que lui qui lève la main, on va lui donner la parole. Mais s'il y a d'autres qui veulent prendre la parole avant, ils seront prioritaires.
Il ne marche pas ce micro.
Casque de service. On a parlé d'alliance. Moi, je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim parce que, toujours avec mes lunettes de paysan, je les vois pas vraiment, les paysans dans les caisses. Je vois pas vraiment non plus les caissières, je vois pas non plus les travailleurs des abattoirs. Je vois pas le monde du travail dans les caisses, alors que ce sont des gens qui travaillent, qui sont aussi dans les caisses. C'est-à-dire qu'il y a, toutes sortes de personnes avec un métier, avec un boulot, et qui ont des connaissances par rapport à ça, et qui peuvent les apporter, etc. etc. J'entends pas vraiment ça. Et quand on a parlé hier des filières et de la construction des filières, et s'intéresser aux filières, c'est tout le secteur économique de la chaîne alimentaire qui m'apparaît pas être inclus dans la démarche, en tout cas suffisamment aujourd'hui. Et je pense que c'est un grand manque, et je crois qu'il y a vraiment une urgence à aller travailler ce point-là.
Merci pour les présentations. J'aimerais rebondir particulièrement sur ce qu'avait dit Birgit sur le fait de comment on passe d'un mécanisme volontaire à un mécanisme obligatoire. Bon, là, en l'état actuel, on sait que c'est pas possible au niveau des caisses. Et enfin, moi, là où je veux rebondir, c'est sur une réflexion que j'ai ces derniers temps sur, en fait, est-ce qu'on doit pérenniser les caisses ? Est-ce qu'on doit pérenniser les expérimentations de caisses pour tendre vers la SSA ? Est-ce que c'est la bonne stratégie ou non ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de s'enfermer sur un mode expérimental ? Quitte à ce que le mode expérimental soit institutionnalisé, financé par l'État, et qu'au final, en fait, l'État, on va dire le gouvernement, les élus, etc., nous laisse en fait dans cet état expérimental et qu'on n'en sorte pas au final, et qu'au final, on n'ait jamais de SSA. Alors, j'entends qu'aujourd'hui, le contexte politique fait que la SSA pourrait pas être mise en place au vu du contexte politique, ça c'est certain. Mais moi, en fait, ça vient m'interroger plutôt à moyen terme. Alors après, j'entends qu'il y a plusieurs enjeux à pérenniser les caisses, notamment pour des enjeux de répondre à la précarité alimentaire, et qu'il y a aussi un attachement, et ça, je ne le remets pas en cause, mais je m'interroge juste sur la dimension, on va dire, macro, en termes de stratégie. Et en même temps, en disant ça, je me dis que si on ne pérennise pas les caisses, qu'est-ce qu'on fait? Et je ne sais pas s'il y a autre chose à faire. Donc, je n'ai pas de réponse. C'est plus une question comme ça qui flotte dans ma tête ces derniers temps. Et je ne sais pas quoi en faire. Donc, voilà, c'était l'occasion de la partager avec vous.
Je peux peut-être répondre. Ça marche?
Ça marche? Non, ça marche pas.
Ça marche pas. Ça marche pas, ce truc.
Ah, il marche pas.
Quand il n'y a pas appuyé.
Où ça?
Ça marche?
Oui.
Wow. Ok. Je trouve que... Hop là. Je trouve que les caisses ont quand même... La force des caisses... C'est leur expérimentation avec la démocratie et l'apprentissage de créer vraiment des structures qui sont économiques et des structures dans lesquelles des opinions diverses, des conflits peuvent se discuter, se résoudre, etc. Et en plus, avec une aspiration. J'ai l'impression que j'ai un peu de problème. Pas plus de batterie. Je trouve que ces expérimentations, pour cette raison-là, sont importantes. Et pourquoi dire qu'une sécurité sociale de l'alimentation est impossible, en fait? Pourquoi l'histoire se termine avec le néolibéralisme et on n'a pas la possibilité de créer quand même un débat dans la société qui permet ultimement à élire un gouvernement qui mettra en place des structures d'une sécurité sociale de l'alimentation. Mais une telle structure ne servira à rien si on n'a pas vraiment expérimenté avant. C'est-à-dire si on n'a pas, si les citoyens n'ont pas appris avant de gérer leurs propres affaires. Et donc pour moi, ces expérimentations partout en France, c'est comme des petites étincelles d'espoir. Le problème, c'est si elles sont trop dépendantes des financements publics et en ferment le robinet, que ça peut provoquer une très grande déception. Qu'il faut avoir présent à l'esprit. Donc, il faut vraiment profiter de cette période, à mon avis, à cette période d'expérimentation pour discuter économie, discuter les prix, apprendre comment fonctionne le système alimentaire, apprendre à calculer, apprendre à décider. Moi, je crois que c'est pour ça, ce sont des espaces très, très précieux. Pour construire une autre société.
Oui, moi je veux bien aller dans le même sens rapidement, parce que c'est une question qui m'a énormément empêché de dormir, ce que tu as soulevé. Notamment nous à Montpellier, quand on est passé de la première phase d'expérimentation à la deuxième, et quand on est rentré dans un grand programme qui s'appelle TerraSol, financé par la Banque des Territoires. Là je me suis dit, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a raison de faire ça quelque part? Et je pense que j'ai trouvé quand même la réponse en disant oui, au sens où c'est vrai qu'on était un peu dans ces considérations de dire on va expérimenter à petite échelle une grande idée politique, enfin en tout cas des bouts de cette grande idée politique pour essayer de faire une démonstration que cette approche préventive de transformation sociale, elle est valable. Et donc on va essayer de prouver finalement à qui d'ailleurs, on pourrait se demander à qui on voulait prouver ça, que c'est valable et qu'il faut que ce soit mis en place. Et je pense qu'on est en train un peu, à mon avis, de sortir de ça et de se rendre compte que ces expériences de caisse, c'est pas juste une bonne démonstration que cette approche-là, elle est intéressante. C'est toutes ces histoires-là qui sont en train, comme tu dis, d'émerger un peu partout avec des gens singuliers sur des territoires qui font un peu à leur manière et qui s'approprient un peu tous ces enjeux. Et donc je pense que oui, il faut continuer à faire des caisses, tout en se disant que les caisses, elles ne sont pas seules sur des territoires. En fait, il se passe énormément d'autres choses que des caisses alimentaires sur les enjeux de démocratie alimentaire, de lutte contre la précarité, toute la question du monde agricole qui a été soulevée et des capacités aussi de ce monde-là à s'organiser différemment, à créer d'autres modèles, des modèles coopératifs, des modèles d'organisation collective qui sont en émergence aussi un peu partout, des régies agricoles municipales, etc. Donc à mon avis, c'est se servir finalement de cet intérêt pour les caisses pour aussi élargir à l'échelle territoriale toutes ces alliances et toutes ces coopérations en fait qui peuvent se faire. Et peut-être commencer à penser cette idée d'une protection sociale de l'alimentation avec cet ensemble finalement d'actions collectives, d'infrastructures, les cantines, les groupements d'achat. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve stimulant en ce moment de penser de cette manière-là et de se dire que ce n'est pas parce qu'on poursuit à l'échelle territoriale que pour autant on affaiblit le grand projet politique. Je pense que ça reste quelque chose qui nous mobilise et d'ailleurs qui mobilise aussi les gens qui sont dans les caisses. Le fait que j'ai cette idée d'un jour une carte vitale de l'alimentation, je pense que c'est quelque chose qui fournit aussi de l'énergie et de l'envie de participer. Et en même temps, reconnaître toute la valeur en fait, de ces dynamiques de territoire qui sont en train de s'organiser, les élargir, les rendre plus solides, parce qu'elles sont, je suis d'accord, encore assez fragiles. Donc soyons réflexifs, soyons dans l'autocritique, mais voyons aussi toutes les potentialités que ça ouvre et tout le boulot en fait qui est encore à faire à partir de ces débuts de caisse. On n'en est qu'au début, je pense. Donc pour moi, la réponse, c'est plutôt oui, mais avec peut-être un regard qui s'élargit et qui pense toutes ces coopérations territoriales. On avait invité sur un webinaire Benjamin Coria, donc un économiste des communs, qui nous invitait beaucoup à penser aussi la question des caisses alimentaires en lien avec avec une manière de repenser nos services publics. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas sur des prémices de services publics qui ont cette vocation d'intérêt général, d'accès universel de tous et toutes, mais avec une gestion démocratique? Et ça, j'avais trouvé aussi que c'était vachement intéressant de penser de cette manière-là. On est dans une période particulière au niveau politique. On a besoin de penser de l'autonomie à l'échelle des territoires, de la créativité à l'échelle des territoires. Sinon, on risque de se faire un peu manger par l'impuissance, je pense, en ce moment.
Je voulais intervenir ou poser une question pour rebondir sur ce que tu disais, ton intervention d'avant, Pauline, notamment, mais pas que, sur pas mal de choses qui ont été dites. En revenant un peu au niveau micro, il a été évoqué cette question de l'injonction à la participation. Et notamment, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une bonne partie des acteurs sociaux, de manière générale, qui n'étaient pas présents dans les débats des caisses. Et moi, j'ai aussi une question du coup, qui me trotte un peu dans la tête, c'est à quel point est-ce que ces expérimentations, au niveau local, elles ne sont pas sous couvert de démocratie et de mixité sociale, des moyens de justifier les intérêts d'une certaine alimentation et d'un certain mode de vie d'une classe sociale privilégiée que nous sommes ici. Et voilà, je m'interroge sur cette question-là. Je pense que c'est important d'avoir quand même un regard un peu critique sur nous-mêmes et sur la position qu'on peut avoir, le fait que on discute entre chercheurs, chercheuses, gestionnaires de projets, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes concernées dans les expérimentations qui font partie de ce qu'on appelle l'inclusion sociale. Et voilà, moi je trouve que c'est quand même un regard important à avoir pour peut-être se décentrer un peu.
T'as envie de dire quelque chose là-dessus?
Il y avait une deuxième question et après...
Merci. Je reviens sur les interventions précédentes à la vôtre qui soulignait les limites des expérimentations à niveau local, etc. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'au niveau national, dans le champ politique, cette perspective de sécurité sociale de l'alimentation connaît un certain écho, puisque des députés, notamment sous la conduite de Charles Fournier, qui est député d'Indre-et-Loire, a positionné cette question-là jusque dans la commission... je crois que elle s'appelle développement économique, et que cette question-là a été validée dans la commission. C'est quand même pas tout à fait anodin. Hein. Alors c'est vrai que maintenant on est dans un bazar au niveau de l'Assemblée nationale qui fait qu'on ne sait pas trop quand cette question-là va se présenter, être présentée au niveau de l'Assemblée des députés. de l'Assemblée nationale, mais il commence à y avoir une certaine existence de ce débat et de cette faisabilité au niveau national.
Bon, moi je pense que il faut qu'un débat au niveau national qu'il soit enraciné et pas détaché de ce qui se passe au niveau des territoires. Et là, comme nous avons bien dit quand même plusieurs fois ces deux jours, on commence juste. Et c'est un peu périlleux de faire une loi au niveau national qui n'a pas été très bien accordée avec les forces sur le territoire. Et je pense par ailleurs, là on a fait des présentations de 15 minutes. La voix des gens qui discutent, par exemple, dans le 20e arrondissement, dans le comité citoyen, et, bon, on les a peut-être mal portés et pas suffisamment portés. Bon, Juliette a essayé un petit peu, mais c'est évidemment impossible. Ils étaient, mais bon, bah, la prochaine réunion, on pourrait les inviter. Et puis. On aura d'autres voix que celles des chercheurs, ça c'est sûr. Et puis les gens ont quand même, c'est leur bon sens qui porte l'expérimentation dans le 20e arrondissement et qui pose des questions, notamment aussi par rapport à l'inclusion des paysans, d'avoir plus de rapport avec les producteurs de nourriture, c'est une chose qu'ils réclament et qu'ils cherchent. Donc bon, tout ça c'est ouvert et c'est dynamique.
Je voudrais juste revenir rapidement sur la remarque de Léo et apporter peut-être une note un peu positive. Et je partage totalement tes constats et je pense que parmi tous les chercheurs qui travaillent là-dessus, on part aussi de ce constat-là. Et je pense qu'on est aussi un peu contraint par le format qu'exige le travail universitaire. Et je pense qu'il y a plein de choses qui vont évoluer, j'espère, sur ces journées, ces formats-là, etc. Et que, en effet, la voix des personnes les plus concernées puisse être mieux portée, voire portée par elles-mêmes. Mais juste quand même, moi, il y a 5 ans, je faisais un travail de mémoire sur les AMAP, un peu sur des questions pareilles d'ouverture sociale, etc. Et il y a 5 ans, en fait, la question de la représentativité, de l'homogénéité sociale, de l'entre-soi, par les participants, elle était encore, il y avait encore une forme de déni, en fait. En tout cas, c'est ce que ça montrait sur mon terrain. Et je trouve qu'il y a quand même une évolution là qui est en train d'avoir lieu. Il y a un passage à une autre étape, une conscience de cet entre-soi, à une volonté de mixité sociale, même si on peut totalement critiquer cette notion. Et voilà. Mais il y a quelque chose que moi je vois qui évolue. Et du coup, je pense qu'il faut l'encourager et pas rester uniquement sur ce constat négatif, mais juste le pousser et voilà.
Je pense qu'on va être obligé d'arrêter là. Je suis désolé. Merci beaucoup.